Donc, bienvenue pour cette séance de théologie autour du thème de la résurrection. Alors, on a choisi ça un peu au hasard parce que c'était la semaine, en fait, bientôt dans la semaine de Pâques. Hein, donc, c'est aussi une occasion de réfléchir à ces questions. Alors, comme d'habitude, on va commencer peut-être sur une partie biblique, pour chercher un peu ce que dans la Bible on va trouver sur ces questions, cette question de la résurrection. Alors, d'abord, c'est une question qui est très discutée, on le voit, même du temps de Jésus. Hein, par exemple, là j'ai mis Marc 12, 18, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts, donc, vinrent auprès de Jésus et l'interrogèrent. Et puis les pharisiens, eux, ils sont pour, ils pensent qu'il y a une résurrection des morts, et donc il y a un débat sur la question au temps de Jésus. C'est donc bien pour dire que l'Ancien Testament ne tranche pas d'une manière évidente la question, parce que les Sadducéens et les pharisiens, c'était des imbéciles ni les uns ni les autres, et donc ils avaient sans doute des bons arguments les uns les autres pour avancer ça sur la base donc de la loi et des prophètes, de la Torah. Alors, un autre exemple de cette discussion, finalement, c'est le psaume 23, qui est le plus connu de chez connu des psaumes. Chez les cathos, c'est 22, mais donc c'est 22 et demi. Au milieu, il y a un passage, c'est lu dans 9 dixièmes des obsèques, en fait. Parce que ça va si bien pour des obsèques. En fait, ça va moyennement bien, parce que si vous voulez, ça parle à moitié de ça. Ça ne parle pas de ça, peut-être. Parce qu'au milieu, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, éternel mon Dieu. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Alors jusque-là, on pourrait dire, on est dans le passage de la mort à la vie, l'au-delà de la mort. On entre donc dans... la Jérusalem céleste ou la demeure éternelle de Dieu, et en particulier avec le banquet, la table, ça peut évoquer la table, le banquet messianique, la table où on mange, avec les dieux, mais c'est quasiment ça dans cette mythologie, on mange à la table de Dieu, à la table du Messie pour l'éternité. Oui, mais le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Alors là, ça retombe comme une crêpe, si vous voulez. Parce que si c'est tous les jours de ma vie, s'il y a des jours, c'est pas la vie éternelle qui n'a ni soir ni matin, si vous voulez. Et j'habite, ou je reviens, donc là, il y a un jeu de mots, si vous voulez, dans la demeure de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est pas pour toujours, c'est pas ad olam pour l'éternité. C'est jusqu'à la fin de mes jours, donc mes jours auront une fin, quoi. Et donc, finalement... ça accompagne peut-être l'espérance de vie future. Et puis, il y a une sorte de, pas de pirouette, mais d'effort du psalmiste pour nous dire, déjà, commence par vivre maintenant cette traversée de la mort, du désespoir, de la crainte, qui te font peut-être vivre déjà dans un temps futur pour vivre le temps présent avec ce Dieu qui, dans le présent, est là avec ta houlette et ton bâton pour défendre contre le mal, pour te guider, montrer un chemin, pour donner des forces face à l'adversité, de nourrir ton être face à l'adversité, de oindre d'huile ma tête, donc de donner une bénédiction, mais de donner aussi un sacre, un envoi en mission pour agir dans ce monde. Et puis j'habite, je reviens, là il y a un jeu de mots incroyable en hébreu. Bonsoir. Un jeu de mots en hébreu. Il y a une petite feuille qui a tourné, donc avec une pile, je pense, là-bas de petit papier. Donc il y a un jeu de mots qui, habiter, c'est demeurer. Il y a sous-entendu l'idée de demeurer, c'est comme en français, demeurer, c'est habiter dans une maison, mais demeurer, c'est demeurer pour toujours, de durer, voilà. Bonsoir. Et revenir, c'est le verbe de la conversion, si vous voulez, du retournement, du retour, voilà. Et donc, il y a ce jeu de mots en disant, tu espères demeurer pour l'éternité, commence déjà par te convertir, dans un sens. Et en te convertissant, tu seras dans la demeure vraie. Donc, moi, je trouve que ce psaume 23, il accompagne bien, si vous voulez, cette espérance de vie future pour nous tourner vers une vie présente intense ou incandescente. Alors bon, est-ce que ça va bien pour les obsèques? Oui, dans un sens, mais peut-être pas comme on peut l'entendre au premier degré. Voilà. Alors, il y a des textes qui vont dans le sens des Sadducéens, si vous voulez, qui ne croient pas dans la vie future. Par exemple, Genèse 3, 19, hein, c'est un peu ce qui est, la promesse qui est faite à Adam et Ève quand ils ont croqué la pomme et qui sont donc, qu'on leur parle de la vie qu'ils vont vivre. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Bon, ça, on a tous remarqué, normalement. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras la poussière. Voilà. C'est comme ça. Ecclésiaste 9.4, ben pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire et leur mémoire est oubliée. Alors l'Ecclésiaste, c'est un livre un peu spécial, quand même un peu désabusé, un peu voilà, qui donne aussi cette touche peut-être intéressante, qui contrebalance d'autres textes, qui donne une autre voie. Le psaume 6, il y a le psalmiste qui dit ben, à l'Éternel, il met un peu la pression à Dieu, le menace en disant ben, « Quand je suis dans ce monde, je peux te célébrer, je peux te bénir, je peux chanter tes louanges, mais quand je serai mort... » Les morts, ils chantent pas les louanges de Dieu, ils sont morts de chez morts, hein, donc tu as plutôt intérêt à me garder vivant, comme ça je pourrais continuer à chanter tes louanges. Si je suis mort, c'est foutu, pour cette belle louange que je peux t'adresser si tu me gardes en vie dans ce monde. Et puis donc le psaume 104, verset 29, « Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent et ils retournent dans leur poussière. » Et puis donc, c'est la fin du vivant, donc voilà. Et puis, psaume 89, « Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts ?» Alors, ces textes-là, bon, on pourrait dire encore, bon, l'homme ne peut pas y arriver, mais c'est un miracle de Dieu qui nous sauve. Mais, bon, il y a pas mal de textes qui évoquent voilà, cette conviction qu'il n'y a rien après la mort. Alors, je voulais terminer par Genèse 15, avec Abraham, si vous voulez, Abraham, c'est la figure du croyant, donc il reçoit la bénédiction pour être bénédiction pour un grand nombre de peuples. Alors, on aurait pu se dire, avec un juste pareil, comme Abraham, ben, on va avoir la vision, je ne sais pas, comme pour d'autres, comme pour Élie qui est monté sur son char de feu, ou Moïse, dont certains disent qu'il ne serait pas mort, ou je ne sais pas qui, Enoch peut-être, enfin bref... on aurait bien vu Abraham dire voilà il sera dans la vie éternelle et tout. Ben non, on voit Abraham qui est désespéré, il dit ben en fait qu'est-ce que tu vas me donner, tu m'as dit que je serais béni, source de bénédiction, mais en fait je vais sans enfant et donc j'ai aucune espérance dans ce monde et c'est aucune espérance. Et alors qu'elle, on lui dit pas ben t'en fais pas, la vie sur terre c'est un peu pourri mais la vie future ça va être génial, on lui dit non, regarde dans le ciel, compte les étoiles si tu peux compter, tu auras, telle sera ta postérité, tes enfants, le peuple qui va sortir de ton sein. Et donc c'est là qu'il y a un peu le début, si vous voulez, de la réalisation peut-être de cette promesse qui est faite d'être source de bénédiction pour le futur. Et donc déjà, si vous voulez, ça annonce ce que j'ai mis dans le chapitre d'après. C'est une certaine vision où la vie future, finalement, ben c'est la vie qui sort de nous, comme ce peuple qui sort d'Abraham. Et donc on va trouver dans pas mal de textes de l'Ancien Testament, ou plutôt du Premier Testament, de la Bible hébraïque, l'idée que c'est le peuple qui est éternel, si vous voulez, qui ressuscite. Bon, même quand le peuple est dans une catastrophe terrible, que tout est fichu, que voilà, bon, ben, il va y avoir un petit reste, et de ce petit reste va pouvoir ressurgir de nouveau un peuple qui sera florissant, qui sera béni, source de bénédiction. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on voit dans Abraham. Il n'est pas question de vie future, si ce n'est à travers sa descendance, à travers un peuple nombreux, et cette bénédiction qui va courir finalement comme cela. Au point que je dirais, dans beaucoup de textes, comme par exemple des psaumes, on annonce dans les psaumes des montées, on dit voilà, ta descendance, tes enfants, etc. Ça peut être lu comme la fécondité de vie dans cette vie, ou ça peut être vu aussi comme la vie future, comme chacun le désire. Alors à mon avis, là, il y a quand même dans cette idée que quand on est mort, c'est mort, je crois qu'il y a quand même là un génie quand même du peuple hébreu. C'est pas qu'ils connaissaient pas le concept, si vous voulez, de vie après la mort, et on peut pas dire que là on a un Israël ancien qui avait pas encore entendu parler de la vie future, etc., puis qui vont progressivement la découvrir, si vous voulez, avec un Israël éternel, ou ensuite avec une résurrection, une vie individuelle après la mort arrachée par Dieu, parce que forcément, ils connaissaient cette notion. La notion de vie de l'individu après la mort du corps, ça traverse, à mon avis, pratiquement tous les peuples. Et même, c'est dans les peuples environnant Israël, en particulier avec l'Égypte, avec qui ils étaient en contact constant depuis des millénaires, eh bien, il y avait cette notion ô combien importante, bien sûr, de vie future. Ils connaissaient. Je crois que c'est un peu comme le psaume 23, c'est plutôt l'idée de se concentrer sur la vie présente pour la rendre le plus vivante et belle possible. Jusque-là, il y a des questions, des remarques, des suggestions sur cette absence de vie future. Bon, alors peuple éternel, on va le voir en particulier dans... oui.
Juste en fait, est-ce que on parle de résurrection, on parle de vie future, est-ce que j'ai l'impression que aujourd'hui c'est à peu près c'est synonyme, c'est à peu près la même chose.
Non, c'est ce que je...
Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'entendre, ou est-ce que...
Non, je crois pas justement, ou pas seulement en tout cas. C'est ce qu'on va voir un peu avec l'Évangile, à mon avis, où ils insistent beaucoup là-dessus, je pense, plus que dans ce stade-là. Mais c'est vrai que quand on dit aux gens dans la rue la résurrection, la vie éternelle, 99% des gens, sauf des gens très cultivés en théologie, vont vous dire, bah, bien sûr, ça parle de la vie après la mort, et puis après il y a le paradis, le jugement, le paradis, l'enfer et tout ça. Donc pour 9 dixièmes des gens, résurrection, ça parle effectivement de ce qui se passe à la mort ou après la mort. Mais on va voir qu'en particulier dans les évangiles, ce n'est pas ça tellement dont on parle. Ou pas seulement ça. Pas seulement ça. Mais dans la discussion qu'on a avec Jésus, c'est, à mon avis, c'est quand même plutôt ça qui est en cause, si vous voulez. Et pour quand même beaucoup de chrétiens... sauf peut-être effectivement dans des églises comme l'oratoire, pour beaucoup de chrétiens, la question, les chrétiens, mais pas seulement, aussi les juifs, les musulmans, des juifs, des musulmans plutôt, parce qu'il n'y a pas les quelque chose, ça n'existe pas en fait tellement, mais donc des juifs, des musulmans, beaucoup de chrétiens, des catholiques, des évangéliques, des protestants bontains, c'est quand même la question. Voilà, c'est d'assurer sur Terre sa vie future. C'est quand même une question. Alors effectivement, quand on regarde, en tout cas pour l'instant, à mon avis, c'est pas trop ça dont on parle, hein, de toute façon. En particulier, donc là, dans le peuple, la résurrection du peuple, on va voir, c'est plutôt quand même un peuple qui renaît, et la résurrection, c'est ça dont elle est en cause. Et à mon avis, quand... justement, dans ces textes, on parle de vie éternelle du peuple et pas tellement de vie éternelle de l'individu. Là aussi, il y a une tentative de détournement, peut-être, ou de reconcentrer le regard des individus, du peuple, non pas vers un petit survie égoïste dans la vie future, mais de se tourner vers la vie du peuple, en fait, et de se concentrer sur la réconciliation avec les autres, et pas simplement peaufiner son petit salut éternel. Ce qui était le cas de M. Pharaon, par exemple, qui, lui, il rigolait pas avec ça. Il dit, non, je vais bâtir une pyramide, et tout le peuple va se retrousser les manches, donner sa vie pour me construire ma pyramide qui va me garantir l'éternité. Là, c'est plutôt l'inverse. Disant, ensemble, on va construire un peuple éternel, avec Dieu, avec l'éternel. Et donc, dans Osée, le prophète Osée, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il pansera nos plaies, il nous fera vivre dans 2 jours, le 3e jour il nous relèvera, et nous vivrons devant lui, et nous chercherons à le connaître. Je le rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort, ô mort, où est ta peste, séjour des morts, où est ta destruction ?» Donc là, on le retrouve dans Paul, il y a cette citation de cette phrase. Les 2 jours et les 3 jours, ça rappelle beaucoup quand même l'histoire raconté à propos de Jésus dans la mort. Et donc là, c'est quand même plutôt collectif. Dans Ésaïe, tes morts vivront, mes cadavres se lèveront, éveillez-vous, tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, la terre redonnera le jour aux ombres. Et c'est vraiment dans Ésaïe l'idée d'un peuple qui va repartir d'un petit reste, et puis Israël va pouvoir redresser la tête et de nouveau être bénédiction et source de bénédiction. Dans Ézéchiel, fameuse vision des ossements desséchés, on voit bien les ossements. Pourront-ils revivre ces ossements desséchés, une vallée pleine d'ossements? Alors le prophète, je ne sais pas trop, c'est toi Éternel qui le sais. L'Éternel dit, tu vas prophétiser sur ces eaux, tu vas annoncer la parole, tu vas appeler l'Esprit sur ces eaux, l'Esprit, le souffle de Dieu. Et puis, il y a progressivement les eaux qui se rapprochent, la chair qui se reconstruit autour des eaux. Et puis, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et puis ensuite, un peu plus loin dans le texte, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétiseront donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos tombeaux, je vous ferai sortir de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai sortir de vos tombeaux, ô mon peuple. Donc, c'est la résurrection d'Israël, c'est le retour d'Exode, c'est le retour d'exil, c'est le rétablissement d'un peuple qui a perdu son espérance, qui a perdu son souffle. Et donc, c'est ça qui est en cause. Et à mon avis, ce n'est pas inintéressant de le voir aussi comme cela. Mais on a dans des textes importants aussi une vie, la vision d'une vie individuelle après la mort, en particulier Monsieur Job. Donc, il hésite beaucoup sur l'idée de jugement, effectivement, qui est ou qui n'est pas la clé pour la vie future, finalement, qui mérite même les récompenses dans ce monde. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Et donc il y a l'idée, d'un après la mort, donc un retour à la vie. Le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui arrache ta vie à la tombe, qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui rassasie de bien ta vieillesse et qui renouvelle ta jeunesse comme l'aigle. Donc il y a l'idée, de vraiment, en ce monde, un renouvellement de la jeunesse, peut-être une sorte de deuxième naissance, deuxième vie, comme on peut le voir dans les évangiles. En tout cas, l'idée d'être... c'est le même mot qui délivre ta vie de la tombe, c'est le même mot que rédempteur, c'est celui qui va individuellement racheter une personne, l'adopter pour la faire vivre et la sauver. Alors dans Daniel, on retrouve là une vision qui est quand même bientôt plus proche de celle de l'imaginaire populaire. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Donc là, ça correspond déjà beaucoup plus, si vous voulez, à cet imaginaire, qui, à mon avis, était plus ancien, qui était vraiment commun dans les peuples alentours, et qui là, à mon avis, infuse dans cette pensée prophétique.
Pas de relation entre les étoiles là et les étoiles chez Abraham.
Ben peut-être si, justement. Peut-être si. Voilà. Mais c'est là qu'il y a un basculement. C'est ça, un basculement. Ben là, c'est bien dans la vie, au-delà de la mort. Alors, résurrection, c'est un mot qui est trompeur parce que c'est un mot qui est forgé de toutes pièces. Il n'y a pas le mot résurrection. D'abord, parce que résurrection, on a l'impression justement d'un passage de la mort à la vie, donc chose qu'on répare, ou je ne sais pas moi, une nouvelle vie. Mais en fait, ce n'est pas ça. Parce qu'en fait, aussi bien en hébreu, chaya, zoopoyein, c'est vivifier, ce n'est pas revivifier. Ce n'est pas réparer quelque chose. C'est vivifier quelque chose qui est mort ou quelque chose qui est tombé malade, peut-être, si vous voulez, ou quelque chose qui manque de force, hein, manque d'espérance, je ne sais pas. Et puis, koum en hébreu, anistémie, levé. Hein? Et puis, kouts, egeirein, éveillé. Alors, ces mots-là, on les a dans Ésaïe 26, en fait. Hein? Les morts vivront, mes cadavres se lèveront. Éveillez-vous, c'est les mots, en fait, classiques de la résurrection. Donc, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus ordinaire, beaucoup plus banal, et s'adresser beaucoup plus facilement, comme vous le disiez, à notre vie de tous les jours. Voilà, hein, être vivifié, être plus vivant avant qu'après qu'avant, se lever, se mettre debout, on était au ras les pâquerettes, ben on se tient debout, et puis s'éveiller, on est un peu somnolent ou complètement endormi, et on s'éveille. Donc ça fait beaucoup plus d'usage à mon avis, et ce qui est, quand on sait ça, il y a 1 million de passages où dans l'évangile Jésus dit « lève-toi », ou alors Matthieu était à la table du péage, il se lève et puis il se met en route. Je veux dire. Donc, c'est des mots de la résurrection. Se lever. Voilà. Alors, on retrouve, si vous voulez, l'idée de jugement des morts et puis d'être digne d'avoir la part au siècle à venir, d'être transformé semblable aux anges, ou bien dans Luc 14, quand tu donnes ça, j'ai du mal hein, quand même. Lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, tu seras heureux parce qu'ils ne pourront pas te rendre l'appareil, te rendre l'invitation. Bah, du coup, tu n'auras pas été récompensé dans la vie présente, du coup, bah, tu accumules du crédit pour la vie future. Quoi. Et du coup, ça te sera rendu à la résurrection des justes. Donc l'idée, un peu comme dans Daniel, qu'on a un compte débit-crédit, si vous voulez, avec des points justes et des points injustes. Et puis, bah, c'est important parce que du coup, il y a ce bilan au renouvellement de toutes choses, voilà, comme dans Matthieu, il y a le Messie qui est sur le trône de gloire, et puis qui fait passer les gens, et puis pour le grand bilan, ben, on est mis à gauche, on est mis à droite. Alors bon, ils n'étaient pas forcément si naïfs que ça. Beaucoup des textes, et en particulier dans Matthieu 25. Le jugement des brebis et des boucs, on est évidemment à la fois bouc et brebis, c'est évident. Et donc, ce n'est pas si naïf que ça de se dire, voilà, on sélectionne les individus avec leur compte débit crédit. C'est quand même, pour beaucoup de gens à l'époque, déjà, ce jugement, c'est plutôt garder le meilleur de chacun et éliminer le moins bon. C'est ce qu'on va voir un peu dans Paul, là. Hein. Paul, lui, il annonce une espérance de la résurrection des justes et des injustes. Pas seulement des justes. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait des injustes? C'est un peu la question. Est-ce qu'ils sont jetés à la poubelle ou pas? Dans cette conception bon, de la vie, d'une résurrection bon, après la mort, ou alors après la mort, bon, des fois, il y a des gens qui pensent qu'on est un peu endormi jusqu'au jugement final, ou alors on est jugé tout de suite, ça dépend des avis, des opinions. Qui sont étayés sur différents textes bibliques, hein, bien sûr. Hein. Le Jésus qui dit aux brigands, ce soir tu seras avec moi au paradis, donc il n'y a pas d'attente entre aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, donc il n'y a pas d'attente entre la mort et le jugement. D'autres endroits on dit ben, qu'on attend et puis qu'on est jugé plus tard tous ensemble, joyeusement, comme dans le credo, ça dépend un peu des opinions, comme personne n'en sait rien, on peut en parler joyeusement, on ne sera pas contredit. Et donc, si vous voulez, il y a cette idée voilà, de jugement pour aller à gauche ou à droite, mais on voit dans 1 Corinthiens 3:12, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, sur le Christ, hein, sur, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, ça c'est comme un peu le... J'ai dû copier sur l'histoire des trois petits cochons, vous savez. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Mais pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, si vous voulez, c'est-à-dire que ce qui est mauvais en chacun... c'est passer à travers le feu. C'est-à-dire qu'en fait, le feu, c'est un peu... Que si on met ce que nous sommes, ce que nous avons fait, ce que nous construit notre être, qui est fait d'or, d'argent, de pierres précieuses, de bois, de foin, de chaume, ben, qu'est-ce qui reste ? Il va rester l'or, l'argent, les pierres précieuses. Donc, si vous voulez, le feu, à ce moment-là, n'est pas une sélection des personnes, c'est plutôt une purification de la personne, garder le meilleur de chacun. Donc, si vous voulez, tous les machins en haut... où il y a l'idée, ben, en fait, c'est la résurrection des justes seulement, parce que les pécheurs sont envoyés directement à la poubelle. Donc, ce n'est pas la résurrection des justes, des pécheurs. Mais là, ça nous dit, ben si, en fait, les pécheurs, ils sont... ou ce qui est péché en nous, plutôt, il est ressuscité, mais purifié, passé à travers le feu. Donc, finalement, il n'y a que ce qui est juste qui est gardé pour la vie éternelle. Et puis, ce qui n'est pas juste, ben, c'est, on en est délivré, comme par un médecin qui vient opérer de l'appendicite, ou supprimer les microbes dans le corps avec des antibiotiques. Alors, la question, on en vient à ce que vous disiez. Est-ce que la vie future, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour après ? Ben, dans les évangiles, quand on regarde... ce service du jugement de Dieu qui élimine le pécheur et qui garde le juste, c'est un service qui est génial à recevoir dans la vie présente, en fait. Parce que du coup, ça nous aide à être débarrassés de ce qui en nous est souffrant, problématique, nocif, et souffrant aussi. Ça peut être des blessures anciennes, enfin, je ne sais pas quoi. Et donc, on voit, par exemple, dans Jean 5, « en vérité, je vous le dis, nous dit Jésus, celui qui écoute ma parole » et qui croit en celui qui m'a envoyé, qui a foi en celui qui m'a envoyé. C'est de la foi, de la relation, bien sûr, hein. C'est pas du dogme. Il a, alors j'ai rajouté maintenant, parce que c'est un présent, quoi. Il a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, il est déjà passé de la mort à la vie, déjà ressuscité. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, elle est déjà présente, en fait, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger. Mais il ne faut pas avoir jugé, si vous voulez, dans le sens de sélectionner et d'éliminer, mais de juger dans le sens de 1 Corinthiens 3, c'est-à-dire de passer au creuset pour garder le meilleur de chacun. C'est ça, comme ça que marche l'amour, de toute façon, un jugement de Roméo sur Juliette, hein. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de ça, l'heure vient, et donc elle est déjà là, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Et ceux qui ont fait le bien, ou plutôt ce qui fait le bien en chacun de nous, ce qui est source de bien en chacun de nous, est ressuscité pour une résurrection de vie, mais ce qui en chacun de nous, finalement, fait le mal, est ressuscité pour une résurrection de jugement, de purification. On a un peu ce que dit 1 Corinthiens 3 d'une autre façon, dans un autre style de langage, mais c'est bien ça qui est un peu la question. Et puis dans Jean 11, ce fameux passage, si vous voulez, où juste après, il y a là, on dit la résurrection de Lazare, mais Lazare, il n'est pas ressuscité, il est réanimé. Il y a des réanimations dans l'Ancien Testament, il y a Élie, Élisée qui font des réanimations... Il y a Jésus qui fait 2-3 réanimations, il y a une femme, il y a le fils d'une pauvre veuve, il y a Lazare, son ami, mais ils sont réanimés. C'est-à-dire, ce n'est pas passage à une vie supérieure. Ils étaient morts, ben, ils remarchent sur leurs pieds, mais ils vont finir par mourir après. Donc on ne parle pas de la même chose, on ne parle pas de réanimation. Mais là, juste avant, il y a la résurrection de Marthe, en fait, la sœur. Elle est désespérée. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit, et donc a foi par moi, en moi, en ce que je représente de Dieu, en ce que je dis de Dieu, en ce que, type de relation que je peux avoir avec Dieu et avec les autres, cela ne mourra jamais. Donc vous voyez que ça réconcilie un peu le recentrement sur la vie présente, la qualité de la vie présente, et donc une résurrection à vivre dans le présent, d'un passage de la mort à la vie, ou d'une vivification du présent, un éveil, une mise sur pied dans le présent. On nous dit, ben, vous êtes gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous êtes vivant maintenant, et cette vie est plus forte que la mort, donc ce qui est vraiment vivant maintenant, ben, va traverser la mort, et va rester vivant au-delà même du vivant, je dirais, de la survie biologique. Donc ça réconcilie un peu cet effort peut-être de la Bible hébraïque pour se recentrer sur une qualité d'être dans le présent, une pensée d'une humanité réconciliée avec Dieu, par Dieu, et puis la vie future, qui est une idée somme toute assez sympathique parce que notre vie sur Terre est relativement courte, et donc si on a du rab après, c'est quand même... bon, on va pas cracher dessus non plus, mais... il y a un recentrement sur la vie avant la mort pour sa qualité. Alors cette histoire de l'heure vient et elle est déjà là où les morts entendront la voix et sortiront des sépulcres, elle est racontée comme un récit dans l'évangile selon Matthieu. Au moment de la mort de Jésus, les tombeaux s'ouvrent et il y a des zombies qui sortent du tombeau comme dans les films d'horreur et qui montent sur Jérusalem. Je veux dire, c'était un peu flippant. Alors je crois... Si c'était arrivé, je veux dire, ça aurait fait grand bruit dans la gazette de Pilate, quand même. Mais c'est vrai au sens littéral, mais spirituellement. Effectivement, c'était le cas, c'est-à-dire qu'à la mort de Jésus, les morts qui étaient les disciples, les apôtres désespérés, sont sortis de leur tombeau et se sont mis à marcher sur Jérusalem vivants. C'est ce qui est raconté dans les pèlerins d'Emmaüs, par exemple, en Luc 24, désespéré de ce pauvre Messie ridicule et lamentable qui s'est fait crucifier, ils se débinent, ils s'en vont, loin de tout le monde, loin des autres, et puis disent, bah, c'est fichu, allez, on retourne à notre... Voilà. Et puis, chemin faisant, ils ressuscitent, il y a marqué explicitement, ils se lèvent et ils retournent vers les autres, vers Jérusalem. Et du coup, c'est exactement comme dans ce récit de Matthieu, mais mis en récit différemment, avec deux personnages, donc nous invitant à nous associer à la résurrection des disciples, en fait, la résurrection de l'humain. Alors ensuite, la résurrection de Jésus, si elle est intéressante, si vous voulez, c'est pas parce qu'il aurait fait simplement 40 jours vivants entre Pâques et l'Ascension, si vous voulez. Comme le célèbre nos fêtes chrétiennes. On le voit à la fin de Matthieu. Enseignez-leur, c'est les dernières paroles de l'évangile, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, moi, je suis avec eux, avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est encore vivant, même après l'ascension, avec vous, dans l'enseignement, dans l'observance de ce qu'il a dit, donc dans la rumination de cette mémoire, pour transformer, convertir notre être et la vivifier. Alors, dans Paul, on a quelque chose qui reprend un peu, je pense, quand même pas mal, l'idée du peuple éternel, c'est-à-dire d'une résurrection, non pas simplement de l'individu, donc dans le temps présent, et qui est valable aussi pour la vie future, si vous voulez, mais une résurrection d'un peuple, d'une humanité. Et donc là, ça, c'est basé sur l'idée, si vous voulez, que l'être nouveau... qui est ressuscité par le Christ, ce n'est pas simplement la personne humaine individuelle, vous, moi. Ça, oui, d'accord, il y a l'être nouveau, c'est cet être-là, l'être personnel, individuel, voilà. Mais c'est aussi l'humanité réconciliée, dont le Christ est la tête. Donc cette résurrection, elle joue sur ces deux niveaux, si vous voulez, sur le niveau individuel et sur le niveau de l'humanité. Et donc, on avait ces verbes, si vous voulez, de la résurrection, hein, egeirein, anistémie, et puis zoopoein, ipoein. Hein, bon, et ben on va les avoir finalement avec sun, c'est-à-dire ensemble. Alors, ensemble avec Christ, mais ensemble aussi, tous ensemble, comme disent les syndicats quand ils défilent dans la rue, voyez. Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts. C'est au nous, vous voyez. Et c'est au nous, chacun de nous, mais c'est aussi nous tous ensemble, en fait. Il nous a rendus vivants, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Donc c'est le sun quelque chose, et Geiren, là. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc dans Colossiens, on a ça aussi, le Fils est la tête du corps de l'Église, l'Église avec un grand E, qui est tous ceux que Dieu appelle, donc c'est l'humanité tout entière. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, et donc on fait partie donc, des très nombreux frères et sœurs qui le suivent, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, donc mort à une vie ancienne, marquée par le péché. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, donc en lui dans ce corps du Christ et avec lui Jésus de Nazareth, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, de votre propre nature qui était, je veux dire pécheresse, parce que bon, tournée vers l'égoïsme, vers la jouissance seule, intérêt personnel, peut-être, je ne sais pas comment dire, qui a un instinct de sanglier, quoi, si vous voulez, furieux. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce, donc c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est pas en fonction des mérites, ça c'est un thème cher à Paul. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Donc voyez, bon, ben maintenant que vous êtes ressuscité avec Christ, ben, je veux dire, il faut aussi un peu de mettre en œuvre quoi, cette vie nouvelle qu'on a reçue. Alors, il y a l'idée, bon, c'est un peu la même idée, dans 2 Corinthiens 4. Si ce n'est que, voyez, on voit un peu ce comment fonctionne ce corps. Il y a Paul qui explique, ben, qui donne sa vie, qui se décarcasse pour que l'Évangile progresse, soit connu, qu'il puisse vivre de l'Évangile. Et donc, il y a l'idée que, voilà, il donne sa vie, son effort, pour que la vie puisse surgir dans les personnes, dans les églises et dans l'humanité. Et donc c'est comme ça finalement que marche la mort du Christ. C'est pas tellement, si vous voulez, l'idée d'un sacrifice pour racheter les machins, c'est plutôt l'idée de... Il manifeste l'amour de Dieu pour le pécheur, et donc il manifeste cette grâce pour que l'Évangile rayonne et qu'ainsi soit manifesté, et qu'ainsi on puisse en vivre. Il y a quand même cette idée... De savoir comment est-ce que les morts vivent après la mort, hein, oui, dans quelle chair, comment ça peut exister. Et c'est vrai que ça, on entre dans des choses de toute façon absolument incompréhensibles et très hypothétiques, puisqu'on n'a même pas ni les mots, ni même les concepts pour imaginer comment nous pourrions vivre sans la matière, sans le corps, puisque bon, nous sommes dans un corps et nous le... Voilà, donc c'est difficile de l'imaginer. Mais il explique que, en fait, c'est comme le grain qui est semé en terre, et puis bon, il y a toutes sortes de chairs. Donc nous, on a une chair faite de viande, quoi, et puis on ressuscite incorruptible. On est semé méprisable, on ressuscite glorieux. On est semé infirme, on ressuscite plein de force. On est semé corps naturel, corps vivant de la vie psychique, quoi. Et on est ressuscité corps spirituel. Alors le premier homme Adam devint une âme vivante, une vie vivante. Voilà, le dernier Adam, le Christ, quoi, finalement, est devenu un esprit vivifiant. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Alors là, si vous voulez, il reprend un peu les concepts grecs, finalement, d'incorruptibilité, d'immortalité. Ça, c'est quand même un peu plus de la façon de voir grecque de la vie future, de la résurrection, où... quelque chose, une âme incorruptible et immortelle et peut s'échapper du corps. Bon, il parle à des Grecs et c'est peut-être comme ça qu'ils peuvent mieux comprendre. Moi, ce que je dirais, c'est, oui, c'est que la résurrection des corps, c'est quand même l'idée que Paul garde la résurrection de l'individu, si vous voulez, pas simplement parce qu'il est entre, il est les deux, lui, il tient les deux, il tient la résurrection de la personne individuelle et la résurrection du corps du Christ, qui est l'humanité tout entière. Alors on pourrait dire, dans la vie future, ben, on est un petit peu comme dans les concepts orientaux, peut-être le bouddhisme, certaines philosophies grecques. L'âme individuelle, elle n'est pas vraiment individuelle, elle rejoint le grand tout finalement, et elle est mélangée avec une sorte de compote d'âme qui est... Bon, je maltraite, si vous voulez, ces pensées orientales qui sont beaucoup plus riches que ce que j'en dis en deux mots, mais caricaturalement, mais bon. Non, il y a l'idée du corps, c'est-à-dire qu'on ressuscite quand on reste un individu personnel dans la vie future. Et je crois que c'est fondamental, effectivement, parce que si c'est l'amour qui est plus fort que la mort, ou si c'est, comme le dit Jésus dans Jean 11, ce qui a foi par moi, en moi, donc c'est ce qui est de l'ordre d'une qualité d'être et de vie qui est en Christ. Si c'est ça qui reste, si l'amour est plus fort que la mort, pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait, faut pas qu'il y ait fusion, si vous voulez, il faut qu'il y ait relation. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que ce qui reste, c'est l'individu personnel dans ses relations avec les autres. Donc beaucoup de gens nous disent, mais après la résurrection, est-ce qu'on est encore en contact, est-ce qu'on retrouve ceux qu'on a perdus, nos morts? Mais je crois qu'on ne les retrouve pas. On reste en lien avec eux comme on est en lien maintenant. Comme l'amour reste, eh ben, il restera encore dans la vie future. Donc on ne les retrouve pas, on reste avec eux comme on est avec eux maintenant, par la mémoire, par l'affection, par l'amour. Et là finalement, ça permet, et c'est là que je trouve que c'est intéressant le coup de l'évangile. Quand on est vraiment de l'amour, une vraie bonne relation avec quelqu'un, cette relation, elle est plus forte que le visible ou l'invisible. Et donc, il y a déjà, dans cette vie, elle est même indépendante du fait que la personne soit vivante biologiquement ou morte biologiquement. Elle est plus forte que ça. Et donc, ça donne déjà peut-être un peu une idée déjà, ou un avant-goût qui permet de légèrement toucher du doigt ce que pourrait être la vie future, ou une vie future possible, par l'amour, en fait. Donc voilà ce que je pouvais, j'ai choisi de vous montrer à partir de ces textes. Est-ce que vous avez des remarques avant de laisser James poursuivre? Oui,
Je me demandais si les quelques textes là, qu'on a avec surtout Corinthiens et peut-être même un petit peu Jean, si on ne pouvait pas le lire de manière dualiste, entre guillemets, c'est-à-dire une relation au monde qui soit périssable, et qui soit extérieure à soi, extérieure. Et qui, parce que comme il y a quand même la notion de Jésus dans les corps ou en soi, il y a la notion de. Ça mettra en équivalence la mort comme étant endormi avec la mort tout court. C'est-à-dire que c'est cette métaphore de vie et mort tout le temps pour ce qui concerne la vie maintenant. En fait, ça correspond à vie et mort par rapport à le fait d'être en relation ou pas avec Dieu, ou en tout cas avec le Père. Je sais pas si c'est Dieu, et voilà, donc il y aurait une relation filiale vivifiante. Et de fait, on a conscience de l'aspect vivifiant en soi, et donc déjà, on est déjà dans l'après-vie ou maintenant vivant.
Oui, oui.
Mais c'est par rapport au monde qui, lui, serait poussière, serait mort, serait sous le serpent. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je le dualise un peu, mais c'est.
Oui, mais je n'ai pas l'impression, si vous voulez, que moi, je n'ai pas tellement l'impression que dans les évangiles ou dans les épîtres, il y a l'idée d'un monde mauvais, et puis négatif, et puis l'esprit,
etc. C'est pas le monde en soi.
C'est la chaume, le foin, etc.
C'est la chaume, le foin.
Il y a le rapport entre.
Il y a du chaume et du foin.
Un monde qui est vivifié n'est pas mauvais. Un monde
c'est ça,
qui
ouais.
est.
Il y a du qui est en attente d'une domestication, en attente d'une bonne créativité. Donc oui, il y a vraiment quelque chose comme ça, je crois, oui. Oui.
Comment est-ce que vous interpréteriez, je crois que c'est dans Paul quand il dit « Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, alors... »
Notre espérance est vaine.
Oui.
Ben, oui. Donc, moi, la résurrection de Jésus, si vous voulez, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne sais pas très bien, et personne n'en sait trop, il est ressuscité comment, quoi ? En chair et en os, ou spirituellement seulement ? Parce que souvent, les évangiles, ils disent les deux à la fois. Par exemple, dans Jean, c'est un vrai Jésus, on peut toucher ses plaies, il mange des poissons, etc. Et puis, en fait, il passe à travers les murs, ils ne le reconnaissent pas. Donc... C'est vrai que, si vous voulez, c'est à la fois un Jésus très matériel, très physique, très Jésus de chez Jésus, et puis à la fois, c'est vraiment quelque chose de très spirituel. Alors, on n'en sait rien. Moi, je dirais, on peut garder les opinions différentes. Par contre, ce qui est certain, c'est que les disciples, eux, sont ressuscités. C'est-à-dire qu'ils étaient désespérés, ils ne croyaient plus en rien, et que après... Ils sont mis sur pied, ils sont éclairés, ils sont vivifiés et ils sont tellement enthousiastes qu'ils vont courir partout dans le bassin méditerranéen annoncer cette façon d'être, cette foi, cette vie qu'il y a en Jésus-Christ, comme on le voit dans Paul. Donc, oui. Mais en même temps, Paul, quand il parle de la résurrection, il parle aussi de l'expérience spirituelle qui est là sur le chemin de Damas. Il se dit témoin de la résurrection par son expérience spirituelle, comprenant tout d'un coup que en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui est le salut qu'il cherchait. Et ça, ça le met non seulement sur pied, mais ça le motive pour annoncer cette façon d'être et de vivre et d'espérer qu'est Jésus-Christ. Et donc, c'est ça, je crois, qu'il dit, c'est si ça, c'est du bidon, à ce moment-là, autant, comme dirait l'Ecclésiaste, manger et boire, parce qu'il n'y a plus que ça, finalement. Oui, et donc il dit, non, il y a en Jésus-Christ, il y a un passage à la mort, à la vie, maintenant. Et donc, on l'a vu, il parle de la résurrection au passé, il dit, nous sommes morts, nous avons été ressuscités. Il en parle de notre résurrection au passé. En Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes déjà ressuscités. Et donc c'est pour ça que c'est fondamental. Il dit, mais s'il n'y a pas, si le Christ n'est pas ressuscité, c'est-à-dire que s'il n'y a pas en Christ quelque chose qui est plus fort que le tombeau vide finalement, c'est-à-dire que si Christ est complètement vidé par sa mort physique ou sa disparition physique, si on en reste à l'ascension, au schéma traditionnel. Si le Christ est complètement vidé par la disparition de son corps, bah oui, à ce moment-là, on passe, il n'y a rien à voir. Ça n'a aucun intérêt. Mais il dit, mais non, au contraire, en Christ, il y a quelque chose qui vraiment fait passer de la mort à la vie. Maintenant, et de l'éternité. Donc ce n'est pas simplement l'anecdote, j'allais dire. Qui, à ce moment-là, dont auraient bénéficié à ce moment-là que quelques personnes contemporaines de Jésus. Non, c'est le Jésus vivant aujourd'hui et maintenant pour nous qui compte, finalement. Et pour Paul aussi, puisque lui n'a pas été témoin de Monsieur Jésus qui mange des poissons après sa mort. Il a été témoin d'un Jésus comme nous en pouvons être témoins aujourd'hui, de quelque chose en Jésus-Christ qui nous bouleverse sur nos chemins d'intégrisme et de source de mort pour les autres, pour devenir tout d'un coup quelqu'un qui est un peu capable d'être source de vie pour les autres. Passage de la mort à la vie par le Christ. Sur le chemin de Damas, c'est Paul qui ressuscite, hein, en fait.
Non, est-ce que c'est pas un rapport avec qui serait peut-être pas directement lié finalement à la mort ou à la vie, par rapport au jugement? Il y a un côté quand même chez Paul où l'amour semble plus fort que le jugement, enfin le dépasser largement. Bon, justement, on a voulu comme frontière à partir de ce moment-là. Donc, si c'est pas là où il y a un. Parce qu'il y a quand même une persécution juste avant. Donc, je me demande s'il n'y a pas un rapport aussi à une espèce de flash de.
Bah oui.
Mais du laïque, plutôt sur cette notion d'amour vivifiant, mais amour en tant que loi qui dépasse toute loi.
Moi, je crois que c'est comme ça qu'il comprend la mort du Christ, en fait. Il dit, voilà, moi, déjà, ça m'amuserait moyennement de mourir pour des quelqu'un de juste et pour des causes justes, mais lui, le Christ, il accepte de mourir pour des salauds de pécheurs. Donc, ça montre quel grand amour il a pour l'humanité et pour chacun de nous. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment faire sens dans notre vie, dans notre théologie, pour comprendre que Dieu est un Dieu d'amour, pas un Dieu qui est peau de vache ou examinateur, qui, par grâce, est prêt à tout donner, même pour des pécheurs. Et puis une nouvelle façon d'être aussi, un renouvellement de vie à travers cette conception, effectivement, de l'amour. Moi, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Mais je pense que dans les théologiens, il y a aussi pas mal de choses
à découvrir. La théologie, finalement, elle se fait souvent de deux manières. Soit c'est une théologie qui est normative et qui dit ce qui doit être. Soit la théologie est descriptive et elle essaie de révéler les mécanismes qui sont à l'œuvre. Et puis des fois, la théologie, elle est simplement suiviste et elle ne fait que retranscrire ce qu'il y a dans l'air du temps et l'idée populaire que les gens se font de ceci ou de cela. Et finalement, la résurrection est un bon lieu pour observer ces trois façons de faire de la théologie. Peut-être que d'ailleurs pour répondre à la question sur et la résurrection de Jésus, on pourrait se dire, dans une certaine mesure, la résurrection, elle est peut-être, on insiste peut-être dessus pour faire quelque chose de la vie de Jésus. C'est-à-dire que voilà un homme qui prêche, et puis ce qu'il dit, ce qu'il professe est manifestement insupportable pour les autorités de l'époque, et donc... pour essayer de supprimer l'idéologie, on supprime l'homme. Et la résurrection est une manière de proclamer le fait que ce que cet homme incarné a été validé par Dieu. C'est-à-dire que par-delà l'autorité du Sanhédrin, par-delà l'autorité même du pouvoir politique, je dirais l'autorité sommitale, valide, et la résurrection est une façon de dire que cet homme, son ministère, est reconnu et validé. De ce point de vue-là, ça pourrait être normatif. Mais ça a été essentiellement suiviste pendant des siècles et des siècles, et les réformateurs eux-mêmes sont un peu dans ce suivisme, qui consiste à voir dans la mort et la résurrection ce genre de processus dont on a commencé à parler un peu, c'est-à-dire on meurt, la mort c'est un endormissement, et donc on est endormi le temps nécessaire pour le retour du Christ qui là opérera une résurrection de tous, c'est-à-dire un relèvement et la possibilité pour chacun d'acquérir ce corps glorieux qui nous permettra d'accéder à une vie en plénitude. Et cette idée de l'endormissement qui va de pair avec cette idée qui va se fixer hein, du purgatoire, de l'enfer, du paradis, c'est-à-dire une spatialisation de l'au-delà de la mort, va courir jusqu'au XVIIIe siècle, hein, jusqu'aux Lumières. Et même encore, c'est le XXe qui, sur le plan purement théorique, tord le cou. Parce que de nos jours encore, comme le disait Marc, si vous interrogez quelqu'un sur la doctrine chrétienne en matière de résurrection, eh bien, la plupart vous répondront sur les schémas la résurrection au paradis. Sauf pour ceux qui seraient condamnés et qui iraient donc en enfer. Bon. En fait, même les athées pensent que c'est comme ça que les chrétiens voient les choses. Alors, je vous ai préparé quelques documents qui vont nous permettre de passer en revue différents aspects à travers la théologie orthodoxe protestante, à vrai dire, et pas la théologie orthodoxe orientale, à travers le catéchisme de l'Église catholique, à travers aussi la théologie du process, et puis une des conséquences non religieuses de la théologie du process. Bon. Oscar Kuhlmann, dont on a eu l'occasion de parler il y a 2-3 ans, Donc c'est un théologien du XXe siècle, protestant, suisse, qui a notamment travaillé sur la christologie, donc qu'est-ce que le Christ, et puis aussi sur l'unité des chrétiens. Donc c'est une citation. Il a écrit un article sur résurrection et immortalité. Poser à un chrétien, protestant ou catholique, intellectuel ou non, la question suivante, qu'enseigne le Nouveau Testament sur le sort individuel de l'homme après la mort ? À très peu d'exceptions près, vous aurez toujours la même réponse, l'immortalité de l'âme. Donc là, il est au milieu du XXe siècle. Début du XXIe, ça marche encore. Moi, pour les entretiens avant les obsèques, j'entends beaucoup d'histoires d'immortalité de l'âme. Au moins, il y a un truc qui reste, quoi. Voilà. On ne perd pas tout notre être aimé. Et pourtant, cette opinion, quelque répandue qu'elle soit, est une des plus... un des plus graves malentendus concernant le christianisme. Donc là, c'est un théologien orthodoxe qui parle. L'immortalité de l'âme, donc, serait complètement contraire. Donc, je vous dis un petit peu ce qu'il en est là pour Kuhlmann. Donc, selon Kuhlmann, les morts en Christ, comme les autres, ne seront pas ressuscités avant la fin, donc le jugement dernier. Et pourtant, leurs conditions ne sauraient être celles des autres hommes. En ce sens où ils sont unis par la foi au Christ, ressuscité, vainqueur de la mort, et doivent bénéficier de sa victoire. Il y a une sorte, de proximité, d'intimité entre les défunts et Dieu. Vous savez, il est retourné auprès du Père. Alors des fois, ça va loin dans les faire-part de décès. Nous avons la douleur de vous annoncer qu'un tel a été rappelé par le Père. Et le paradoxe. Bon. C'est qu'en fait, on n'est pas très au clair là-dessus. Parce que la mort reste un scandale et une épreuve épouvantable dans la plupart des cas. D'un autre côté, on a l'idée que mourir, c'est ensuite être dans la proximité de Dieu. Et c'est avec des théologiens orthodoxes comme celui-ci que finalement on est un petit peu tiré entre deux. Ils ont reçu le Saint-Esprit qui a déjà commencé à transformer leur être intérieur. Aussi, quand ils meurent, en attendant la résurrection de leur corps, ils sont dans une proximité particulière à l'égard de Dieu et du Christ. Ils sont en communion avec le Christ en vertu du Saint-Esprit, ils sont auprès du Christ, pour parler comme l'apôtre Paul, qui, pour illustrer la proximité divine dans laquelle il se trouve, use le plus couramment de cette image, ils dorment. On trouve ça dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, qui est le premier écrit du Nouveau Testament. Alors, il y a toute une polémique dans ce chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniciens. Parce que c'est le moment où les gens commencent, les croyants commencent à mourir, alors que le Christ n'est toujours pas revenu sur terre. Et du coup, que se passe-t-il pour les morts ? Vous voyez, c'est toute la difficulté à laquelle Paul est confronté. Et donc Paul est en quelque sorte tenu d'écrire une fiction pour expliquer ce qui se passe pour les morts. Et donc c'est là qu'il parle du grand sommeil. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus avec lui ceux qui se sont endormis. C'était une époque où on n'a pas encore bien mesuré le nombre de personnes sur Terre, de génération en génération, et la place que ça devrait prendre si tout le monde était endormi quelque part. Mais ça, c'est une question métaphysique qui, au XXIe siècle, reviendra. Donc, avec Kuhlmann et en fait avec tous les théologiens qui le précèdent, Luther et Calvin, pareil, hein, Calvin, l'endormissement et la résurrection de ceux qui sont endormis, il y a un état intermédiaire, donc ce sommeil en compagnie du Christ, avec quand même un problème, c'est que dans l'épître aux Thessaloniciens qui finalement soutient l'idée du sommeil, au verset oui, c'est ça, au verset, enfin à la fin, le verset 17, etc., un peu plus tôt même. Ce qu'il est dit, ah oui, c'est ça, c'est le verset 15. Ceux qui sont endormis, finalement, vont devancer ceux qui sont encore vivants. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que celui qui est au ciel doit venir chercher ceux qui sont endormis. Et finalement, ça contrarie l'idée qu'au moment de la mort, on serait dans une proximité avec Dieu, puisque Dieu est dans le devoir d'aller les chercher. Donc voilà tout l'embarras de la spéculation sur l'après-mort. C'est que spatialement, comme ça ne tient pas, on est obligé d'avoir des propos contradictoires. Et Karl Barth, qui est un théologien orthodoxe pour les libéraux et un théologien libéraux pour les orthodoxes, dira « Que signifie l'espérance chrétienne pour cette vie ? Une vie après la mort ? Une paisible distanciation à l'égard de la mort ?» On l'a lu, « Ô mort, où est ta victoire ? Où est ton aiguillon ?» etc. Tranquille, quoi. Une petite âme qui, tel un papillon, s'échappe en voltigeant de la tombe et qui est conservée quelque part pour continuer à vivre éternellement. C'est ainsi que les païens se sont imaginé la vie après la mort, mais ce n'est pas l'espérance chrétienne. Donc, comme Coleman, dans une certaine mesure, il refuse l'idée de l'immortalité, l'idée de pouvoir échapper à la mort. Il pose qu'il y a une future, ensuite, il va y avoir ce corps glorieux dont parle l'apôtre Paul, 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 15, qui est donc une résurrection au sens où on relève la structure de l'être et on lui donne son plein accomplissement, ce qui n'était pas possible jusque-là parce que nous étions un peu engoncés dans le péché. La théologie catholique est intéressante. Je vous ai mis quelques extraits du petit catéchisme de l'Église catholique. Parce qu'elle elle va un peu à l'encontre de... Bon, je ne voudrais pas embarquer Marc dans mes divagations, mais en tout cas, moi, je... elle va un peu à l'encontre de l'idée selon laquelle la résurrection serait de l'ordre spirituel. Elle dit, non, c'est de l'ordre du physique. Et ça, c'est dit dès le départ. Le mystère de la résurrection du Christ est un événement réel qui a eu des manifestations historiquement constatées. Donc ça, c'est juste. Comme le disait Marc, le fait même qu'on en parle aujourd'hui encore fait que la résurrection est efficace. Enfin, ça a des effets. Ça a des effets historiques. Les disciples, les apôtres, c'est bien la preuve historique qu'il y a eu résurrection pour eux. Voilà. Eux, au moins, en tout cas, ont été ressuscités. Donc, comme l'atteste le Nouveau Testament, déjà, saint Paul peut écrire aux Corinthiens « Je vous ai donc transmis ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, etc. Ensuite, qu'il a ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze, et ainsi de suite, une chaîne de transmission. » Et donc, voilà, il y a un effet domino. Donc, la résurrection, en tous les cas, le thème de la résurrection est efficace et met des gens en mouvement, en marche. Bon, ensuite, l'Église catholique insiste sur la question du tombeau vide. Et ça répond aussi à votre question sur « et si Jésus n'était pas ressuscité ?» Ben là, ça fait une différence entre un prêtre qui adhère au catéchisme, au petit catéchisme catholique et ma position à titre perso. C'est-à-dire que si un jour on retrouve la tombe du Christ, il y en a plusieurs, ben, supposez qu'on trouve la vraie tombe et qu'on trouve des ossements, moi, ça ne bousille pas ma foi. Mais alors, pour le prêtre, c'est la fin de tout. Parce que c'est dans l'ordre du physique, le terme va apparaître après, que les choses se jouent. C'est-à-dire que si la résurrection exprime, comme je disais tout à l'heure, la validation du ministère de Jésus, qu'il y ait encore les ossements ou pas, ce n'est pas un problème. Si la résurrection exprime que tout ce que les disciples ont reçu en termes d'enseignement, en termes d'espérance, en termes de foi, peut se poursuivre en dépit du fait que le maître a été supprimé, ossement ou pas ossement, ça ne pose pas de problème. Si la résurrection, ce doit être la caméra qui, le matin de Pâques, filme le cadavre qui se relève et qui soit pousse la pierre, soit passe à travers la pierre, soit reçoit l'aide de quelqu'un pour ouvrir la pierre et ensuite fait tout ce qu'il a à faire, alors évidemment, si on retrouve les ossements, ça pose problème. Donc, la fin de ce paragraphe 640, je vous ai souligné la phrase qui me semble intéressante. Cela suppose qu'il ait été constaté dans l'état du sépulcre vide que l'absence du corps de Jésus n'a pas pu être une œuvre humaine. Donc ça veut dire que les disciples ne sont pas allés le prendre le matin pour aller le cacher ailleurs comme c'est suspecté dans l'évangile de Matthieu. Et que Jésus n'était pas simplement revenu à une vie terrestre, donc pas simplement réanimé, comme cela avait été le cas de Lazare. Bon, moi, à titre perso, je ne parlerai pas de réanimation non plus pour Lazare, mais bon, de toute façon, ce n'est pas le sujet. Voilà, donc on met Jésus sur, comment dire, dans un statut particulier. Je passe sur le 641 pour venir au 642 pour vous montrer à quel point toute théologie est quand même toujours une petite bidouille, une petite, toujours un peu de magouille quoi, dans la théologie quand elle est normative. Tout ce qui est arrivé dans ces journées pascales engage chacun des apôtres et Pierre tout particulièrement. Et en fait, tous ces passages sont là pour mettre Pierre en avant. D'ailleurs, on le voit dans le paragraphe 641, je voulais souligner. Marc a raison de dire, enfin, il n'a pas d'histoire, mais il le dit de temps en temps, les premiers apôtres sont les femmes. Et c'est elles qui annoncent la résurrection aux hommes. Eh bien, regardez ce que nous fait le 641. Ils nous disent, bon, Marie Magdala et sainte femme qui venaient d'achever d'embaumer le corps de Jésus, ensevelis à la hâte à cause de l'arrivée du sabbat du soir et du vendredi, ont été les premières à rencontrer le ressuscité. Jusque-là, ok, on est d'accord. Ainsi, les femmes furent les premières messagères de la résurrection du Christ pour les apôtres eux-mêmes. Bah, c'est bien ce qu'on dit. C'est à eux que Jésus apparaît, pour parler aux apôtres. C'est aux apôtres que Jésus apparaît ensuite, d'abord à Pierre, puis aux 12. Pierre, appelé à confirmer la foi de ses frères, voit dans le ressuscité avant eux, et c'est sur son témoignage que la communauté s'écrit, c'est bien vrai. Et d'un seul coup, on met Pierre sur un piédestal. Pierre n'est pas du tout à l'initiative de la tradition, pas du tout à l'initiative de la transmission. Il n'est même pas allé au tombeau pour vérifier que ce que Jésus avait dit allait bien se réaliser. Il n'est même pas allé au tombeau, ne serait-ce que pour prendre soin du cadavre. En fait, voilà, il était complètement ailleurs. Et c'est lui qu'on met en avant. Et pareil pour le paragraphe 642. Donc, Pierre est tout particulièrement... engagé dans ces journées pascales, dans la construction de l'ère nouvelle qui a débuté au matin de Pâques. Et du coup, vous voyez, il y a une instrumentalisation de Pâques au service du ministère de Pierre. Bon, et donc le paragraphe 643, c'est celui qui m'intéressait. Devant ces témoignages, il est impossible d'interpréter la résurrection du Christ en dehors de l'ordre physique et de ne pas la reconnaître comme un fait historique. Et donc, si on est dans l'ordre physique, bon, ça pose quelques problèmes au niveau atomique, mais ça pose surtout un problème au niveau théologique. C'est qu'à ce moment-là, pourquoi est-ce que ça ne se réalise pas encore de nos jours ? C'est comme la conception virginale. C'est-à-dire que si c'est possible pour Marie, pourquoi ça ne pourrait pas être possible pour d'autres qui ont tout un tas de soucis aussi pour avoir des enfants, etc. Disons que là, il y a quand même un hiatus dans la perspective d'un Dieu bienveillant. Et alors, pour bien insister sur le fait que ça doit être de l'ordre physique, historique, la fin du paragraphe 644 parle donc de toutes ces hésitations, etc. Et c'est pourquoi l'hypothèse selon laquelle la résurrection aurait été un produit de la foi ou de la crédulité des apôtres est sans consistance. C'est une idée selon laquelle les apparitions du Christ seraient des hallucinations au bon sens du terme. C'est-à-dire que la foi suscitée par Jésus-Christ auprès des disciples aurait permis aux disciples d'éprouver sa présence stimulante. Et donc, qu'ils aient eu l'impression de le voir ou pas, peu importe. Mais en tous les cas, ils peuvent dire qu'ils sont accompagnés dans cette nouvelle phase de leur histoire. Et donc, la résurrection, c'est de dire que ces hommes qui détenaient le pouvoir n'ont pas réussi à éliminer la foi que le Christ a suscitée. Et la résurrection serait dans ce cas-là un produit de la foi. C'est-à-dire que ça serait un discours qui dit que ce que vous avez voulu rejeter, eh bien Dieu en a fait la pierre angulaire, pour paraphraser le psaume 118, qui est utilisé d'ailleurs au sujet de Jésus. Donc la résurrection, ce pourrait être une reprise du psaume 118, qui est un peu une reprise aussi de l'histoire de Joseph, qui, au moment de se réconcilier avec ses frères qui avaient voulu le liquider, leur dit « Ce mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien ». Donc vous avez voulu me tuer, et bien en fait, j'ai été ressuscité et je vous ai sauvé la vie. De la famine notamment. Bon. La théologie, je disais, est normative, mais elle est aussi descriptive. Et je crois que dans la prédication chrétienne, et la prédication pour les obsèques, la résurrection est en principe au cœur de la prédication, sans qu'on ait forcément le mot résurrection à la bouche dans toutes les phrases, pour raconter quelque chose des processus qui sont à l'œuvre dans notre vie et qui nous permettent de passer la vallée de l'ombre de la mort, qui nous permettent de traverser les deuils. Et pour ce qui est de la... Et peut-être que la résurrection est une prédication de cela, une prédication de tout ce qui nous permet de ne pas nous abîmer irrésistiblement dans une vie qui, en fait, devrait en permanence se dégrader. Et je vous ai mis une citation de Laurent Schlumberger, qui est le président du Conseil national de l'Église protestante unie. Il dit « La pointe et la caractéristique de la prédication chrétienne lors d'un décès et devant la question de l'après-mort est appelée à la résurrection des vivants. » C'est le sens d'une cérémonie d'obsèques, hein, d'ailleurs. La cérémonie est pour les vivants et pas pour le défunt. Donc c'est bien à ces vivants qu'un prédicateur s'adresse et non pas aux morts. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de prière pour le mort, mais une prière pour les vivants. Ce prédicateur est un vivant comme les autres, et non pas le détenteur d'un savoir venu d'outre-tombe. Donc là, il y a quand même l'humilité sur le fait que personne n'est venu nous dire comment ça se passait après. Dans la texte biblique, il y en a quand même un qui a fait ça. C'est Samuel. Il y a Saül qui, au moment où il sent qu'il va bientôt mourir, rappelle Samuel du séjour des morts. Il va voir la sorcière d'Endor. Il dit « Fais remonter Samuel du séjour des morts. » Et Samuel remonte du séjour des morts. Alors, bon. Vous pourrez lire le passage là, dans le livre de Samuel. Moi, qu'est-ce que j'en tire de cette conclusion? Enfin, qu'est-ce que j'en tire de cet épisode plus exactement? Qu'est-ce que j'en tire comme conclusion de cet épisode? Eh bien, c'est que lorsque Saül interroge Samuel, Samuel dit ce qu'il lui disait de son vivant. Autrement dit, ce texte biblique, sans faire l'impasse sur le fait qu'il n'y aurait pas de communication possible avec l'au-delà, dit qu'en tous les cas, s'il y avait une communication possible, à supposer que les morts se mettent à parler ou reviennent sur Terre, eh bien, ils ne seraient pas détenteurs d'un savoir spécifique. Samuel ne fait rien d'autre que de dire à Saül ce qu'il lui avait toujours dit. C'est une façon de neutraliser un peu les expériences limites.
Il n'est pas content, quand même.
Ah ouais. Ah ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'attitude de la sorcière, parce que donc Saül doit mourir le lendemain. Et qu'est-ce qu'elle trouve à faire? Nourrir Saül, le truc inutile par excellence. Elle doit mourir demain et on le nourrit. Mais en fait, c'est à la fois inutile et c'est en fait l'évangile, c'est-à-dire que vivant jusqu'à un quart d'heure avant la fin, il était encore vivant, comme disait la palice là. C'est-à-dire qu'il a vraiment vécu jusqu'au bout. Elle lui donne l'occasion de vivre jusqu'au bout. Et peut-être d'entrer au paradis, comme comme le larron sur la croix. Tu seras avec moi aujourd'hui au paradis, c'est-à-dire que une rédemption est possible d'ores et déjà. Ce qui ne supprime pas le fait que nous mourions. La mort reste le terme. Je vous parlais de théologie du process, et la théologie process, elle peut être dite soit avec les mots des théologiens, soit avec les mots des éthologues, par exemple. Et je pensais à Boris Cyrulnik, qui a vulgarisé le principe de résilience. Je trouve que le principe de résilience, c'est pas sans faire penser à la question de mort et de résurrection. Avant de vous lire le petit passage là où il parle de son expérience dans les années 40, il y a une phrase là qui est la dernière qu'il reprend de Michel Del Castillo dans Deux Pères Français. Il dit, c'est Michel Del Castillo qui dit: j'ai fini par admettre que j'étais mort à l'âge de 9 ans. Accepter de contempler mon assassinat, c'était me constituer cadavre. Et c'est quelque chose qui va avec une autre expérience qu'évoque Boris Cyrulnik, c'est qu'on n'arrête pas de mourir, en fait, qu'on meurt tous les jours. Et ça implique donc de ressusciter au moins un peu de temps en temps. J'ai l'habitude de mourir, c'est la vie. C'est une expression qu'il a entendue dans son cabinet, celle que je vous ai mise juste avant. J'ai l'habitude de mourir, c'est la vie. Et la résilience, je trouve que ça peut être une façon de parler de ce qu'on trouve aussi dans les textes bibliques. Je vous lis son expérience lors d'une rafle à Bordeaux en 1944. Donc il est tout jeune, il a 6 ans. C'est dans un de ses livres, je ne sais plus lequel, un petit livre qu'il a écrit. Donc il parvient à s'enfuir en se cachant dans les toilettes du lieu où tout le monde a été rassemblé. Il a grimpé donc au-dessus, là, jusqu'à trouver un moyen de se cacher sous le plafond. Et donc voici ce qu'il écrit, lui précisément. « J'ai de cette journée de 1944 un sentiment de réussite. Le souvenir d'avoir fait un exploit, une prouesse, chaque fois que j'ai repensé à ce qui s'était passé, je me suis dit « T'inquiète pas, ça va aller, il y a toujours une solution. » Et je repensais à cette scène des pissotières. C'est comme ça que je suis devenu un bon grimpeur. Par la suite, je pouvais monter partout où je voulais en me disant simplement « Si tu grimpes, tu pourras toujours t'en sortir. La liberté est au bout de ton effort. » Et quand je repense à ces moments terribles, c'est toujours un sentiment de victoire, car même enfant, je pensais ainsi, ils ne mourront pas, il y aura toujours une solution. Eh bien, il explique que la résilience est possible par trois choses. Tout d'abord, les facteurs internes. Les facteurs internes, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire, il parle de nourriture affective, c'est le fait d'avoir un capital dans lequel on peut puiser pour faire face aux situations difficiles que l'on rencontre. Donc, en général, l'amour que l'on reçoit dans l'enfance, ça sert à ça. Mais c'est aussi les succès. Et par exemple, là, le succès qu'il a eu, eh bien, c'est une expérience fondatrice à laquelle il peut toujours se reporter pour savoir qu'il y a possibilité de s'en sortir. Alors, vous me direz, quand on n'a pas eu cette enfance heureuse, cette enfance structurante, etc., eh bien, les textes bibliques sont là pour ça, je crois. Il me semble que c'est l'intérêt de tous ces textes qui renvoient à la mémoire collective et qui rappellent que Dieu a délivré Israël avec un bras puissant, etc. Et souvent, on a ces célébrations qui rappellent la mémoire, qui rappellent l'histoire, pour offrir une mémoire auxiliaire à ceux qui n'en ont pas, et pour leur offrir ce capital dans lequel ils peuvent puiser. Et je crois que Pâques offre un capital de cette nature-là à celui qui n'aurait pas eu l'occasion d'avoir sa nourriture affective, d'avoir son capital pour se lancer dans la vie. Le deuxième élément qui explique la résilience pour Cyrulnik, c'est la nature du trauma, la structure du trauma. Donc voilà, il faut en tenir compte dans la résilience, parce que une chose est de subir une agression physique, temporaire, de type on se fait braquer dans la rue, etc., ou on subit un attentat, et une autre est de subir quelque chose au long cours, insidieux, perverse, etc. Voilà, donc là, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est l'élément externe, c'est la rencontre avec une personne signifiante, qui, selon ces termes, va donner de la signification au trauma. Et c'est ce que dit Jésus, par exemple, quand il rencontre l'aveugle. Il dit « C'est arrivé afin que Dieu manifeste ses œuvres ou sa gloire. » C'est pas que Dieu ait décidé que cet enfant naîtrait aveugle pour qu'il puisse montrer sa puissance, mais c'est que ce trauma, on peut en faire quelque chose et montrer une direction, montrer une orientation, montrer ce que peut être un chemin d'humanité. Donc prendre soin de cet enfant-là et le déculpabiliser, le sortir de cette logique dans laquelle tout le monde le mettait, à savoir, s'il est aveugle, c'est parce qu'il a péché ou que ses parents ont péché. Et donc, ce processus de mort et de résurrection, c'est aussi quelque chose qui neutralise le principe de causalité. Hein, parce que ce qui meurt fait que il n'y a pas de succession. Il peut y avoir du filtre. De même que le chaume, le foin, etc., peuvent brûler à travers le feu, eh bien, on filtre. On fait une sorte de droit d'inventaire. La mort, au sens symbolique du terme, sert à cela. Et donc, je continue quelques petites citations que je vous ai mises là dans Les Vilains Petits Canards, qui est tout à fait intéressant comme livre. La résilience n'est pas un catalogue de qualités que posséderait un individu. C'est un processus qui, de la naissance à la mort, nous tricote sans cesse avec notre entourage. Et ça se fait sous l'angle du récit. C'est ce qu'il dit après. Tous les chagrins sont supportables si on en fait un récit. Aujourd'hui, on dirait si on fait son analyse, quoi. Si on arrive à mettre des mots sur ce qui s'est passé. Et donc, le travail de deuil, c'est notamment de verbaliser. Et même le processus de pardon nécessite de dire là où ça fait mal. La victime doit dire en quoi elle est victime. Le mal, c'est ce qui fait mal, pour paraphraser aussi bien Lita Bassé que Paul Ricoeur. Et donc, c'est à condition de pouvoir mettre des mots là-dessus qu'on arrive à s'en libérer. Et vous voyez, quand il disait que c'est un processus qui, de la naissance à la mort, nous tricote, bon, bah, évidemment, je pensais à la théologie du process. Parce que la théologie du process va, curieusement, faire ce que les théologiens orthodoxes disaient qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire que les théologiens du process vont absolument pas parler de la résurrection, ils vont parler de l'immortalité. Je finis là-dessus. Je vous ai mis des textes, c'est encore plus simple. Il y a tout d'abord John Cobb. Alors, c'est un poil compliqué, mais je vais essayer de vous le rendre compréhensible. Donc il dit, bien sûr, il y a des limites au caractère durable d'une substance. Le bois de la table peut pourrir ou être brûlé, non pas brûlé. À un moment donné, ce qui permettrait d'identifier comme la même table ou la même substance sera détruite. Donc, les objets sont appelés à disparaître. Mais les théologiens du process vont parler d'une immortalité objective. L'immortalité objective, ça tient à quoi? C'est Whitehead qui va en parler. Un moment, le moment que nous sommes en train de vivre, mais très petit, hein, le moment là est une sorte d'entité. Et aussitôt vécu, aussitôt passé, un autre vient à la suite. Et du coup, l'entité précédente, enfin, le passé le plus présent, devient une donnée, ce qu'ils appellent un data, qui va informer l'entité suivante. C'est-à-dire que, vous voyez, on est assis à la même place. On a à peu près encore les mêmes idées, même si ça change, parce que la conversation nous modifie. On a les mêmes vêtements, etc. Donc, les données précédentes ont une influence sur l'entité suivante. Et donc, on peut dire que, de ce point de vue-là, il y a une sorte d'immortalité, parce que les données se retrouveront toujours dans les événements successifs. C'est un peu comme de la dilution. C'est-à-dire qu'après, la donnée de l'instant présent va être extrêmement faible dans un événement qui aura lieu dans 10 ans. On aura changé de vêtements, par exemple. On peut l'espérer. Moyennant quoi, tout subsiste, tout demeure. C'est quelque part. Et si on avait la capacité de retrouver ou de pouvoir décrypter toutes ces données, alors on pourrait retrouver les états antérieurs, on pourrait savoir ce qui s'est passé, etc. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une immortalité des objets, une immortalité objective. Donc, c'est ce qu'il dit. Hein. Bien que les substances de cette espèce viennent à l'existence et disparaissent, il y a engendrement et dégradation. Cependant, la matière elle-même ne cesse pas d'exister. Et en fait, il pense les entités ou les datas comme des atomes insécables, des unités fondamentales qui subsistent, qui vont se reconfigurer simplement. De fait, ces atomes étaient considérés comme indestructibles, c'est-à-dire définis comme les substances ultimes, incapables d'engendrement, de dégradation ou de tout autre changement que les déplacements dans l'espace. C'est un peu comme les nombres premiers, c'est immortel. La question que pose John Cobb, c'est, y a-t-il aussi une immortalité subjective? Donc l'immortalité du sujet. Alors l'immortalité du sujet, c'est quoi? Eh bien, c'est de dire que nous, on est en fait une société d'entités. C'est-à-dire que nous sommes un être complexe, avec tout un tas de données, et est-ce que la structure, elle, subsiste? Ou est-ce que la structure explose? Et alors là, c'est assez décevant, mais ils ne savent pas. Ni Whitehead, ni Cobb ne savent répondre à cela. Whitehead ne juge pas impossible l'immortalité de la personne parce qu'il ne juge pas impossible l'immortalité de la structure. C'est-à-dire, ça serait la molécule par rapport à l'atome. on sait que les molécules ont tendance à se bousiller pas mal, mais les atomes aussi, en fait. Bon. Autre point intéressant avec Lewis Ford, ce que les premiers disciples ont expérimenté n'était ni une apparence corporelle du Christ, donc ce n'est pas de l'ordre du physique, comme on pouvait le dire dans le catéchisme catholique, ni simplement une hallucination, au sens où ce serait le fruit de la foi, l'objet de la foi, mais une vision ou une rencontre avec une réalité non sensible, rendue sensible par des moyens hallucinatoires. On peut dire la justice, ou la justice, par exemple, on ne peut pas en faire une expérience sensible. La justice, à la limite, c'est une fiction même. On ne peut pas la mettre sous le microscope, on ne peut pas la toucher, c'est un processus, c'est quelque chose qui évolue. Bon. En revanche, on peut la raconter et on peut finalement, à travers une fiction, se la représenter. Et on pourrait même donner des bouts de définition. Donc on pourrait en faire une expérience de représentation, donc une expérience hallucinatoire. On pourrait en quelque sorte la modéliser. On peut modéliser la justice. On crée des articles de loi, on crée de la jurisprudence. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire la résurrection est d'une nature spirituelle. C'est une nouvelle réalité émergente. Le corps du Christ dans lequel l'humanité est transformée en une nouvelle unité organique par l'esprit vivant du Christ, c'est l'idée selon laquelle on projette Christ ou Christ ressuscité ou la résurrection devient une manière de désigner quelque chose que nous avons du mal à observer dans le monde autrement que par ses effets. C'est-à-dire que on voit les résultats de la justice, c'est les jugements, les condamnations, etc. Mais c'est difficile de pouvoir dire ce qu'est la justice. Bien, ce serait un peu la même chose. On est capable, finalement, de voir la résurrection ou de voir le Christ par défaut, toujours rétrospectivement. Donc une relecture, une réinterprétation. Et dans une certaine mesure, les textes bibliques fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que, notamment pour le Premier Testament, mais en fait les évangiles aussi, à un moment donné, on s'arrête et on réfléchit à ce qui s'est passé. Et on le met en récit. Exemple typique, toute la couche deutéronomiste avec Jérémie, etc. Comment en sommes-nous arrivés à l'exil à Babylone et à la destruction de Jérusalem? Et là, on fait une relecture et on met en place une théologie de l'Alliance qui permet de donner corps, finalement, de rendre compréhensible tout ce qui nous a amené à cette catastrophe nationale. Je vous ai mis, pour finir, à titre de probité intellectuelle, Paul Wells, qui est un opposant farouche à tout ce qui peut être taxé de libéral. Il était professeur à la faculté d'Aix-en-Provence. Et je vous le lis rapidement. « Les affirmations bibliques recourent à des notions naïves de succession du temps pour décrire l'éternité. Même le tétragramme divin « Je suis » ne fait pas abstraction du temps puisqu'il évoque « celui qui sera ». Pour Dieu, 1000 ans passent comme un jour. Le langage naïf de la Bible établit à la fois une différence et une similitude avec notre temps. La notion d'éternité implique une succession temporelle d'une certaine sorte, dominée et surplombée par Dieu. Et c'est là que la critique arrive. La théologie du process a raison de faire valoir la notion de succession. Donc, il y a des temps qui se succèdent, des époques qui se succèdent, etc. Mais elle a tort d'en faire un principe auquel Dieu lui-même serait assujetti. Et du coup, ça c'est l'orthodoxie, la théologie protestante orthodoxe, qui considère que Dieu est hors de tous ces processus. En fait, c'est Dieu immuable, Dieu impassible. Dans la théologie du process, Dieu subit les conséquences de ce qui arrive, ça le reconfigure aussi, ça l'altère dans une certaine mesure, ça le reconfigure. Là, Dieu reste maître et donc reste extérieur finalement à toute structure. Dieu, en qui il n'y a ni changement ni variation, est à l'origine de toute succession temporelle. Il possède en lui-même l'éternité, et le temps éternel dépend de lui, tout comme le monde créé dépend de l'unité et de la diversité qui le caractérise. De génération en génération, il est le Dieu éternel. Et du coup, c'est cela qui lui permet, dans une théologie orthodoxe, de pouvoir faire tout ce qu'il veut de l'univers, y compris de contrevenir aux lois de la physique. Dans la théologie du process, Dieu est le process. Dieu est ce qui fait passer, en fait. si le temps, c'est ce qui fait passer, et non pas ce qui mesure autre chose. Bon. Donc, on se retrouve avec les deux extrêmes, là. La théologie du process qui, finalement, dirait immortalité. Rien ne se crée, rien ne se transforme. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et puis, l'autre opposé, c'est cette posture, ou cette position, plus exactement, par exemple, de Paul Wells. Donc, une extériorité de Dieu qui permet, finalement, de sauver ce qui était perdu et de pouvoir redonner à la personne, à l'individu, sa plénitude, à la fois perdue par le péché originel et à la fois perdue par les conséquences de ce péché originel, la mort. Donc c'est une sorte de reprise de l'histoire pour pouvoir réengager le processus de création de Genèse 1 et sur de nouvelles bases. Donc tout ce qui relèverait du péché, la chair notamment, dans la perspective où la chair est corrompue, corruptrice, etc. Dans ce cas-là, on se dispense de la chair et on n'a que la gloire de Dieu comme enveloppe, finalement, comme peau, comme consistance. Maintenant, faites votre choix.
Les critiques de Paul Wells, la théologie modeste de Paul Wells, évidemment, c'est quelque chose de fort, mais il me semble que c'est la notion qu'on a habituellement de Dieu, c'est éternel, l'éternité, c'est ce qui est hors du temps. Mais ce qui, tout de même, il me semble, n'apparaît pas dans ça, c'est la possibilité de rapport à Dieu de l'homme, pas de notre rapport à Dieu et de Dieu à nous. Et là, c'est un rapport qui se situe dans le temps. Ça a été très souligné, je crois, par exemple, par un philosophe comme Lévinas, pour lui, le temps est une mode d'accès, en quelque sorte. Donc, même si Dieu lui-même est hors du temps, il me semble que la théologie du process peut effectivement apporter une certaine vue, conception de la possibilité de nos rapports à la divinité. Mais qui dit rapport dit forcément une relation n'est pas une autre. Chacun intervient dans un rapport. Donc je pense quand même que, effectivement, même si nous sommes amenés presque naturellement à concevoir Dieu comme hors du temps, on ne peut pas négliger le fait. Que le monde, lui, se développe dans le temps et que nous sommes dans ce monde et nous sommes dans le temps.
C'est-à-dire que la juge du process dirait que Dieu n'est pas soumis au temps. Il n'est pas hors du temps, mais il n'est pas non plus soumis au temps. Mais peut-être qu'il est peut-être plus le temps qu'autre chose, d'ailleurs. Mais alors, le temps comme action, c'est-à-dire le temps, comme je disais, ce qui fait passer les choses. Ce qui les fait passer d'un état à un autre, par exemple. Du coup, Dieu comme une sorte d'horloge atomique, peut-être.
Vous avez donné un texte, je ne sais pas combien, de Karl Barth, où il disait Dieu en lui-même, et Dieu dans l'histoire, et ça, cette distinction, il venait les deux ensemble, finalement. Hein, comme les deux faces d'une pièce, mais il venait les deux ensemble.
Oui, ça devait être sur la question de la trinité immanente et de la trinité économique. La théologie du process pose qu'il n'y a pas de Dieu en soi. Il y a Dieu et le monde. Ouais, ce n'est qu'action, en fait. Action qui... toute action n'est pas Dieu. L'action divine se repère au fait qu'elle rend d'autres actions possibles. Au lieu de limiter le nombre d'actions possibles, elle a tendance à accroître. Ce qui caractérise le divin dans la théologie du process, c'est qu'elle augmente le nombre de possibilités d'existence. Donc elle va dans le sens de la libération, oui. Alors dit comme ça, c'est un peu difficile de savoir s'il a raison ou s'il a tort.
Pour le mouvement, il y a un moment, enfin, comme ça que je l'ai compris,
Parce que lui était assez partisan.
La stabilité, par le stabilité.
Ah, mais c'est comme le mot Gennaro, c'est ça.
Dans son dernier.
Stabilité au sens où le vélo est stable quand il avance.
Je
ne
sais pas ce qu'il a voulu dire.
Parce que lui était assez partisan d'un dieu qui justement bouge avec les événements. Et qui est vraiment en interaction avec le monde et qui n'est pas du tout impassible ou indifférent à ce qui se passe.
Et ça, c'est très biblique finalement, parce qu'on voit Dieu changer de toute façon. Par exemple, ça commence, tu parlais de Genèse 2, Genèse 3, mais en fait avec Noé, on voit Dieu regretter ce qu'il a fait et puis donc intervenir, et puis on voit Dieu donc envoyer une gigantesque chasse d'eau pour améliorer l'humanité en repartant du seul juste. Et finalement, on voit Dieu changer, se dire « Mais non, je ne ferai plus jamais ça parce que ce n'est pas une bonne méthode. Je comprends maintenant que l'humanité, de toute façon, elle est entre le bien et le mal, elle est mêlée de bien et de mal. Donc, plutôt que d'essayer de détruire l'humanité mauvaise pour garder la bonne humanité, je vais faire alliance avec l'humanité telle qu'elle est. » Donc, tout dans ces récits nous disent au contraire, un Dieu, comme le disait James, un Dieu qui tient compte, un Dieu qui cherche à faire alliance, mais une vraie alliance, ben on fait alliance avec quelqu'un qui est vivant aussi et qui fait... voilà, donc non, je dirais la Bible ne parle pas, à mon avis, tellement d'un Dieu immuable. Et éternel, ça ne veut pas dire hors du temps, ça veut dire qu'il n'y a pas de borne ni dans le passé ni dans le futur, mais... On peut ne pas avoir de bornes et néanmoins être dans le temps. Bon, alors cela dit, le temps est une notion qui est complexe, ça nous semble une notion évidente. C'est une notion qui philosophiquement est déjà assez complexe et puis pour la physique est très complexe aussi parce que le temps est une des dimensions de l'espace. Donc si on conçoit Dieu comme en dehors de l'espace... il faut quand même réfléchir à ce que ça peut vouloir dire en termes de Dieu dans le temps, si vous voulez. C'est quand même compliqué. C'est quand même délicat à manier comme notion. Je ne sais pas pourquoi on en est venu là pour parler de la résurrection, mais...
Mais c'est l'heure.
Mais c'est l'heure, de toute façon, le temps est passé, le temps est court. Et donc, on se retrouve le mois prochain pour une autre rencontre. Qui est ? Ah, vous pouvez me passer le petit journal, peut-être, on peut le dire.
C'est écrit, là.
C'est écrit dans la loi et dans les croix. C'est écrit dans le petit journal. Voilà. Donc, le mois prochain... Ça va être approfondissement théologique. Ça sera le 4 avril. Avec quel sujet ? Le 4 avril. Sur le pardon ?
Oui.
Le 4 avril sur le pardon. Donc, merci de nous avoir rejoints. Et donc, à bientôt.